suite et la fin de cette émission.
Donc pour cette deuxième partie, je vais vous amener en Italie, à Napoli, Naples. Le roman s'appelle « Fragile et la nuit », l'auteur c'est Angelo Petrella, et il est publié chez Philippe Ray dans la collection Noir.
Ah ben c'est encore un nouvel éditeur, non ?
Oui, en fait, pas tout à fait, parce que les éditions Philippe Ray existent depuis 2002, la collection Noir depuis 2014, donc c'est quand même récent. Mais c'est la première fois qu'on évoque cet éditeur et aussi cet auteur.
Bah, moi, en tout cas, je découvre.
Voilà, Angelo Petrella est napolitain. Son héros est napolitain. Il s'appelle Denis Carbone.
Je pense que tu donnes pas le bon accent, mais bon.
Denis Carbone.
Capisce.
C'est un flic. Il est placardisé dans un commissariat de quartier chic. Suite à quelques méthodes procédurales, va-t-on dire, indignes d'un policier.
Ah, quand ils sont punis, ils sont mis dans les quartiers chics. C'est pratique.
Voilà, bah, comme parce qu'il n'a rien à faire qu'à s'occuper de...
Ah oui, c'est vrai que dans ces quartiers, il n'y a jamais de...
Du coup, dans ce commissariat, il se fait chier. Alors quoi ? Il picole. Il picole, mais du macalam tout de même. Il faut rester chic.
Ah, il aurait pu s'entendre avec le très italien personnage de Jean-Claude Izzo, mais c'est pas tout à fait le même whisky. Ils auraient quand même pu trinquer avec leur verre à whisky.
Je pense. Et il écoute du jazz. Ce qui confirme au fond que c'est un type bien. Il écoute Chet Baker, Don Cherry et Jaco Pastorius. Il se succède dans son autoradio pendant qu'il planque souvent devant la maison de son ex. Denis avait confié à l'alcool et à son travail les tessons de ses meilleurs souvenirs en se promettant d'oublier Laura pour toujours. Et si pour la première fois, depuis qu'elle l'avait largué, il avait résisté 3 jours sans la voir, il était à présent envahi d'un désir irrépressible.
Quand il dit qu'il fait la plombe devant la fenêtre de sa femme, de son ex, ça plus exactement.
Ah ben il la surveille.
Ouais,
il la surveille.
C'est
il va
pas
voler.
Une mission, c'est pas
non
une mission.
Non, il va voler le courrier. Il la prend en photo pour la voir. Il surveille son nouvel ami, etc.
Quelques méthodes procédurales indignes d'un policier, comme tu disais tout à l'heure.
Ça continue effectivement. Mais bon, aussi il va enquêter quand même. Il y a une affaire de meurtre ou peut-être de suicide d'une superbe et riche femme. Fameuse dans son quartier pour ses nombreux amants et ses folies sexuelles.
Une très belle chanson dans les quartiers chics.
Ces investigations seront un petit peu, polluées par l'obligation qui lui est faite par ses autorités d'enquêter avec le chef de la PJ, celui-là même qui l'a fait muter dans ce quartier chic, donc placardisé. Une enquête de quelques jours où vont se mêler, on est à Naples, n'oublions pas, la mafia et la corruption. Mais aussi affaires de sexe, de prévarication, quelques règlements de compte dans ces quartiers huppés de la ville. Voilà ce qu'il en dit un moment. Naples est une immense ruelle, conçue tout exprès pour les embuscades, et à 7 heures de la nuit, il n'y aurait aucun témoin.
C'est Naples, c'est une ville qui suit bien au roman noir, puisque c'est aussi la ville de Maurizio Di Giovanni, non ? Tétralogie, puisqu'il y a les 4 saisons.
Oh oui, il y en a 6 maintenant.
L'hiver du commissaire.
Voilà, il a fait 6 saisons en tout. Donc, effectivement, un roman noir à Naples, tout de suite, on pense à Maurizio Di Giovanni. D'ailleurs, l'auteur, Angelo Petrella, le remercie à la fin du roman. Mais on sent tout de suite une différence. La ville de Petrella ne semble pas être la même que celle de Di Giovanni.
Mais on est à 80 ans de distance quand même aussi, non ?
Oui, non, même parce qu'il a écrit aussi une série qui malheureusement n'est plus traduite en français, qui se passe de nos jours. Et c'est pas pareil. Il dit un moment, mais Naples n'était pas Cuba, ni même l'Italie d'ailleurs, le reste de l'Italie. C'est un no man's land abandonné à l'obscénité. La Napoli de Petrella ne grouille pas de monde. Les rues sont vides, c'est peut-être ce quartier qui fait ça. Et puis surtout, ils sont sans vie. Alors que dans l'imaginaire collectif, et dans les romans de Di Giovanni, Naples est une ville grouillante, chaude, exubérante.
Enfin, c'est pas que dans l'imaginaire, hein, parce que
non, non.
On connaît...
Non, si je dis l'imaginaire collectif, c'est un peu comme ça qu'on se la représente.
Parce que très foisonnant.
Mais si, j'y étais en plus, je suis bête. Et ici, donc, je disais, elle est froide, tout y semble calculé. On voit la mer du haut, en fait, du coup, puisque c'est les quartiers chics qui sont en hauteur, comme souvent.
Huppé, c'est en hauteur, c'est avec le H.
Voilà, et du coup, en fait, on ne sent pas la ville comme on la sent dans les romans de Di Giovanni. Elle pulse moins. Et il le dit d'ailleurs, de là-haut, Naples avait l'air d'une pute. Le Vésuve lui tenait lieu de saint, et le golfe d'une bouche prête à engloutir les ambitions et à recracher de l'argent. Et pourtant, Angelo Petrella, il la connaît bien, sa ville de Naples. Et il n'en a pas une vision romantique, pas du tout. Il a écrit, entre autres, à part plusieurs romans dont Naples est le personnage principal, comme dans celui-là, il a écrit aussi plusieurs guides touristiques sur Naples et les alentours, Pompéi, etc.
Si mais que Naples avait l'air d'une pute, ils vont venir, les touristes. Si dit en ce moment, ils ne peuvent pas y aller. Donc.
Voilà, non. Hein? C'est pour ça que c'est l'avantage de la lecture, c'est qu'on ne peut pas aller en Italie, mais au moins on peut y aller par la lecture. Donc en fait, l'intrigue est un petit peu embrouillée. C'est peut-être que l'esprit du flic, qui est un peu confit dans le single malt, l'est aussi. Et pourtant, l'auteur réussit quand même à maintenir une bonne tension narrative dans un livre très court, 170 pages. Et le personnage de Carbone est, comment dire, presque attendrissant dans ses errements, dans ses contradictions et dans son désir un peu vain, comme souvent, de retrouver l'amour de son ancienne compagne.
Donc quelques réserves, mais tu recommandes sans hésiter quand même.
Oui, sans hésiter. Je ne suis pas complètement convaincu, mais l'auteur a vraiment un style et son flic a un beau potentiel.
De dire qu'un flic a un beau potentiel, oui. Ça fait toujours rigoler, mais c'est pas grave.
Son personnage, on va dire, voilà. Son personnage a un beau potentiel. Il ne manque pas grand-chose à son récit pour le rendre vraiment excellent. Juste un petit peu quelque chose, je ne sais pas quoi exactement. Mais lisez-le. Et voyons ce que donneront les suivants plus tard, puisqu'en italien, Angelo Petrella a déjà écrit une nouvelle enquête de Denis Carbone, qui sort le 29 mai dans les bonnes librairies italiennes. Mais donc, en attendant d'aller le réclamer celui-ci, donc, qui s'appelle « Fragile et la nuit », qui est publié aux éditions Philippe Ray, et je m'aperçois que je n'ai pas donné
le nom de la traductrice,
qui est une excellente traductrice de l'italien, qui s'appelle Nathalie Bauer. Voilà, allez le réclamer dans vos bonnes librairies françaises qui commencent à rouvrir leurs portes.
Et qu'est-ce que tu nous as choisi comme morceau musical ?
Eh bien, un morceau de jazz, puisqu'il en écoute. Alors, j'aurais pu choisir un musicien italien, tromboniste qui s'appelle Petrella, mais non, en fait, j'ai choisi Jaco Pastorius, puisqu'il l'écoute, et qu'on aime beaucoup ça, nous aussi. Donc, on va écouter Jaco Pastorius, et comme on fait bien les choses, enregistré en Italie. En 1986, avec à la guitare Birilli Lagrène et à la batterie Thomas Borzok. C'est une composition de Joe Zawinul, dont le titre correspond fort bien au roman, puisque ça s'appelle Black Market, soit Marché Noir.
Et voilà, on écrane quelques notes de jazz. C'est à moi maintenant d'évoquer un roman que j'ai beaucoup aimé, un roman qui est sorti il y a quelques semaines. Et ce roman que je vais évoquer maintenant va nous emmener sur des chemins bien tortueux. Et ce, à différents niveaux, à tous les points de vue. D'abord, les cheminements étonnants de nos mémoires, individuelles et collectives. Mais aussi, les chemins tortueux des petites ravines, des traverses, des chemins qu'empruntent les personnages dans une campagne tout à la fois belle, mais très inquiétante quand même. Et puis, dernier aspect, les labyrinthes dans les maisons du village, des greniers, je dirais les greniers à tiroirs, dans lesquels se trouvent de lourds secrets. Et enfin, l'itinéraire bien tortueux du personnage principal de ce roman.
Donc, tu vas peut-être nous dire le titre, l'auteur et éventuellement le traducteur.
Eh bien non, puisque c'est un roman français. C'est le deuxième roman publié au Seuil dans la collection Cadre Noir de Cyril Herry. Herry, je vous l'appelle parce que ce n'est pas encore un auteur très connu, mais j'espère que ça va bientôt changer. Herry, H-E-2-R-Y. Et le titre, c'est « Nos secrets jamais ». Donc, édition Seuil, collection Cadre Noir. Comme je l'ai dit, roman sorti en février. Un coronavirus l'a un peu terrassé, ne lui laissant pas vraiment sa chance. Comme je disais en première partie d'émission, n'hésitez pas à le commander, à le recommander, à en parler à votre libraire et à tous ceux qui vous entourent.
Comme personnage principal, un homme, une femme ?
Une femme. J'ai envie de dire plusieurs. Mais celle que l'on rencontre en premier, en tout cas, c'est Elona. Elona Baum, qui vient visiter ou peut-être s'installer dans la maison qu'elle vient d'hériter de Magdalene Sandro, qui était sa grand-mère, vient de décéder. Une maison un peu complexe, déjà tortueuse, je parlais des chemins sinueux. Une maison, un bar adjacent, fermé depuis des années. Il y a aussi une grange, puis il y a aussi une maisonnette au fond de la cour, où habite depuis toujours Émile Bloch. Premier regard qui scrute Elona au début de ce roman. Elona, elle vient aussi hériter, mais elle vient chercher la vérité. Car sa mère, elle aussi décédée il y a quelque temps, lui avait toujours dit que sa grand-mère était morte depuis, allez, je ne vais pas dire toujours parce que ça ne veut rien dire, mais depuis très longtemps, lui répétant à l'envi, je cite Cyril Herry, « Il n'y a rien d'autre à dire de ta grand-mère. Oublie le passé, occupe-toi de ton futur. » Alors, dans la tête d'Elona, je recite, « Elona n'avait eu aucune peine à exaucer le feu, puisqu'il n'y avait rien à oublier, à compter du moment où l'on ignore tout ou presque. »
Mais voilà, ça va changer.
Et oui, parce qu'Elona va donc chercher son histoire, ses racines dans la maison, et puis aussi dans les têtes des autres habitants du village, à commencer par Émile Bloch, mais il y en a d'autres, Annie, John, on va voir. L'histoire de sa grand-mère, qui va évidemment évoquer l'histoire de sa propre mère. Je parlais de plusieurs personnages, plusieurs femmes personnages principaux, voilà une espèce de trinité. Et nous allons ainsi remonter le passé jusqu'à la guerre de 39-40, qui a laissé de bien sales traces dans les familles du coin, comme dans beaucoup de campagnes d'ailleurs, comme beaucoup d'endroits en France.
Donc un roman en fait qui va conjuguer le passé et le présent.
Oui, c'est les deux temps classiques des polars dans les romans noirs. On suit à la fois Elona, qui va tout à la fois, donc Elona à l'heure actuelle, qui va tout à la fois se déconstruire, puis se reconstruire. On la suit à aller sur les traces de son passé. Et l'auteur scrute et décrit à merveille chacune de ses peurs, de ses émotions, je dirais chaque changement infime de son intime. Chaque pas, chaque avancée, chaque révélation, on sent Elona qui vacille, puis elle se renforce. Tout simplement parce qu'elle essaye et elle va arriver à comprendre d'où elle vient, ce qui l'a construit et détruit en même temps. Et Cyril Herry, donc, nous fait aussi bien voyager dans les strates de la mémoire des habitants du village que dans les circonvolutions de conscience et d'inconscience d'Elona. On va aller même jusqu'à pénétrer dans ses cauchemars.
Avec donc un angle de vue un peu particulier.
Oui, angle de vue, c'est le bon mot. Ce que je n'ai pas dit depuis le début, et qui est très très important dans le récit, c'est qu'Elona est photographe professionnelle.
Ah oui, pour le coup, effectivement.
Ah oui, c'est très important. Tous les gens qu'elle rencontre, elle les voit. Et Cyril Herry, évidemment, mais elle les voit de son œil, avec son œil de photographe. Et Cyril Herry les décrit, lui aussi, avec une plume œil très particulier. On dirait qu'il place une caméra, on dirait qu'il met des projecteurs pour être au plus près des ombres et des lumières de ces personnages. C'est vrai des êtres humains, des témoins, comme je parlais tout à l'heure, Annie, qui tient le bar encore ouvert dans le village, ou bien encore le vieux John, chez qui Elona va passer pas mal de temps. Mais les lumières et les ombres, ça va être vrai aussi des morceaux de forêt, des sentes qu'il nous décrit. Des fois, il met la caméra au ras du sol.
En contre-plongée.
Voilà, on peut dire ça. Pour parfois s'élever, prendre un grand angle, n'être pas loin des rapaces. Un peu comme s'il utilisait un drone, en quelque sorte.
Et est-ce qu'il n'y a qu'Elona qui est photographe,
non ? Et non, temps conjugué, passé, présent, le passé télescope le présent. Elona, dans des greniers, dans des malles, va trouver des centaines de photos que prenait son grand-père. Parce qu'elle découvre, c'est que ce grand-père était lui-même photographe. C'est d'ailleurs dans les vieux clichés qu'elle va découvrir une part de vérité, une partie de l'histoire. Car en fait, c'est là, je trouve, le vrai thème de ce roman, si proche des humains et de leurs tourments. Il n'est pas qu'un point de vue, qu'une vérité. Elles sont multiples, c'est protéiforme, et selon l'éclat du miroir dans lequel on regarde, on ne va pas voir la même chose. Ça dépend donc de l'angle de vue, de l'œil d'un photographe ou pas qui regarde la scène, qui donc la photographie ou pas, de l'esprit qui se souvient ou pas.
Du focus.
Et évidemment, tu parles en spécialiste de la photo, du focus. Et c'est donc... oui, mais c'est vrai, tu as raison, parce qu'en plus, de temps en temps, il y a... Cyril Herry s'amuse même à quelques flous. Voilà, donc c'est un roman dont le fond vaut autant que la forme. Moi, j'ai vraiment adoré le style et j'ai vraiment adoré la narration qu'il a entrepris, qui est un très très beau travail. Donc, je vais rappeler le titre, « Nos secrets jamais »
de Cyril Herry,
aux éditions du Seuil.
Cadre noir.
Il est temps de nous éclipser et de vous dire, traditionnellement, chacun dans son coin avec un bon bouquin.
Ou plusieurs.
Nous vous souhaitons de bonnes semaines à venir.
Allez voir vos libraires.
À bientôt.